Le temps des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Cette semaine, nous nous intéressons aux portraits de femmes, motif d'autant plus passionnant que longtemps et majoritairement, il fut le fait, ce portrait de femme, d'écrivain homme. De la Nausicaa aperçue par Ulysse naufragé et dite par Homère, si jamais il a existé, à la main fastueuse balançant le feston et l'ourlet de la passante de Baudelaire, qui lui a existé, et j'en passe. Cette semaine, ces portraits de femmes sont le fait de trois écrivains qui sont aussi des femmes. Nous recevons en effet Blandine Rinkel, Michel Lèbre et Marie Redonnet. Trois écrivains qui nous donnent une mère attentive au monde, dont il s'agit de faire le portrait par fragments, qui nous donne aussi une insoumise bretonne, Robin des Bois du XVIIIe siècle, et qui nous donne enfin une jeune sœur, entre autres, luttant pour sauver l'hôtel familial d'un marécage méphitique. Bonjour Blandine Rinkel.
Bonjour.
Vous publiez chez Fayard L'abandon des prétentions, joli titre qui ne recouvre pas le roman d'une abdication, loin de là, mais davantage un roman de la sublimation. C'est le portrait d'une mère, possiblement la vôtre, je ne sais pas quel pacte vous avez noué avec le lecteur.
C'est dans la mienne.
C'est votre mère qui est donnée, ce portrait, par de multiples fragments, 65 exactement. C'est une femme attentive au monde, à l'autre, à l'étranger, à celui qui vient, un ingénieur syrien en fuite, un danseur étoile moscovite, une vieille algérienne, un jeune dealer d'Europe de l'Est, une femme oreille, dites-vous, avec des guillemets, enseignante, enfin retraitée de l'enseignement, qui voyage dans sa cuisine, par ses rencontres. C'est votre premier roman. Est-ce que la figure de la mère, c'est t'imposer immédiatement pour choisir le sujet de ce premier roman?
Pas du tout, parce que c'est pas le premier roman que j'écris, c'est le troisième, mais les autres étaient vraiment mauvais, donc ne méritaient pas du tout d'être lus par d'autres personnes que moi. Mais non, ça s'est pas du tout imposé comme une espèce d'évidence autobiographique où ça serait plus simple d'écrire sur sa mère. Non, c'est juste que ça, j'ai l'impression que ça résonnait beaucoup plus avec l'esprit du temps et que ça méritait peut-être d'être entendu par d'autres que moi. Mais c'est sa vie de femme, c'est pas en tant que mère. Enfin, elle m'intéresse pas en tant que mère, elle m'intéresse en tant que femme, quoi.
L'esprit du temps, qu'est-ce que vous voulez dire par là?
J'ai l'impression qu'elle est un personnage de la classe moyenne, ouvert sur le monde entier, qui passe dans son petit périmètre d'habitation et qui a quelque chose. Et puis qu'elle suit énormément les médias aussi.
Oui. L'état du monde, alors aussi.
Ouais, l'état du monde. Ouais.
Bonjour Marie Redonnet.
Bonjour.
Vous republiez 30 ans après votre grand triptyque des années 80 aux éditions du Tripode. Alors, triptyque, Marie Redonnet?
Oui, triptyque, ce sont trois romans qui se sont enchaînés de 6 mois en 6 mois. Le premier était Splendide Hôtel, ensuite Forever Valley, ensuite Rose Mélie Rose. Et ce n'est qu'à la fin du troisième, vraiment à la fin, que j'ai dit à Jérôme Lindon, qui était à l'époque mon éditeur.
Chez Minuit.
Voilà, chez Minuit. Mais ça, le tout forme un triptyque. Voilà. Ah, il m'a dit oui, ça forme un triptyque.
Vous ne l'avez su qu'à la fin?
Oui, je le voyais qu'à la fin, parce que c'est à la fin que j'ai compris quand même la problématique un petit peu des trois textes que j'avais enchaînés si vite, quoi.
Alors, ces trois textes, ils sont parus entre 1986 et 1987, donc c'est donc il y a 30 ans. Aux éditions de Minuit, vous l'avez rappelé, Splendide Hôtel, Forever Valley et Rose Mélie Rose. Des portraits de femmes, notamment dans Splendide Hôtel, qui se présente comme une sorte de suite de chants où une femme sans nom, sans âge, sans visage dit sa passion, sa souffrance aussi pour ce splendide hôtel qui est un peu son trésor. On parlait avec Blandine Rinkel du rôle de la mère, là c'est légué par sa grand-mère. Un hôtel construit au bord d'un marais où elle résiste, infatigable narratrice, elle est dévouée aux clients, elle rebouche les tuyaux percés, elle colmate les trous, c'est une sorte de vaisseau qui prend la pourriture. Elle est harcelée, malheureusement, à la fois par des forces matérielles, climatiques, chimiques, l'environnement, mais aussi par deux sœurs, une comédienne ratée et une malade, qui finiront d'ailleurs par mourir, tandis qu'elle continuera, elle, à essayer de tenir dans cette arche hôtelière contre vents et marais. AIS, hein, puisqu'il s'agit d'un marécage. Ça, c'est pour Splendid Hôtel. On parlera aussi des autres, puisque ce Splendid Hôtel ouvrait un triptyque sans que vous le sachiez. C'est un peu l'héroïne de Splendid Hôtel, non pas une mère courage, comme on dit, mais une fille courage, ou est-ce que ça serait encore plus une figure de conte?
Une mère, peut-être pas, parce qu'elle n'est pas mère, mais...
Non, parce qu'on dit mère courage.
C'est une femme courage. Ouais. Enfin, pour moi, c'est la première de mes héroïnes, parce que je pense que toutes les femmes, tout au moins dans le triptyque, hein, les trois.
Parce qu'après, sont plus des filles.
Sont des héroïnes au sens fort, c'est-à-dire des femmes qui, dans une situation vraiment, comment dire, extrêmement difficile, elles sont héritières d'un monde pourri, d'un monde en ruine, d'un monde saccagé ou d'une absence de choses. Bon, elles vont combattre vraiment, mais c'est au sens de mère courage, effectivement. Mmh. Elles vont se battre, se transcender, même au prix d'une mutilation de leur. Ou d'une amputation de leur féminité, pour accomplir quelque chose de très fort par rapport à leur être, par rapport à leur identité, par rapport à leur place même dans l'histoire et dans le monde. C'est pas des livres...
Accomplissement ou non-accomplissement, pour certaines.
Non-accomplissement, par exemple, de femmes.
Je pense à Forever Valley. Mais
oui, mais elle aura tenté quelque chose. Oui. Elle aura échoué, tragiquement.
Des femmes qui tentent. Comme cette Marion Lefaouette, Michel Lèbre, sorte Robin des Bois du XVIIIe siècle à laquelle vous rendez hommage. Mieux que ça, vous lui écrivez une lettre dans Chère Brigande, lettre à Marion Lefaouette, c'est chez Sabine Vespizer. Est-ce que j'ai rappelé Marie Redonnet que c'est au Tripode que vous republiez quand même?
Et je rends hommage à ce jeune éditeur qui a eu le courage de faire ce...
Et Blandine Rinkel, c'est chez Fayard. Alors Michel Lèbre, donc Marion Lefaouette, personnage de combattant, de femme qui accomplit, qui tente d'accomplir quelque chose aussi au XVIIIe siècle, sorte, on disait, de Robin des Bois bretonne, prenant aux riches pour donner aux pauvres, une insoumise à laquelle votre narratrice, ou vous, d'ailleurs, je pose la même question qu'à Blandine Rinkel, c'est vous, c'est votre narratrice, on reste dans le cadre du roman ou on le dépasse?
C'est moi, tout à fait.
C'est vous.
C'est une vraie lettre. Comme je lui dis, c'est une lettre d'une femme à une femme.
Voilà, exactement.
Elle est moins parfaite, vous en donnez un portrait idyllique. C'est justement
je dis Robin des Bois.
Oui, c'est justement ce qui me plaît chez cette femme. Les vies parfaites, ça me laisse toujours un peu à distance. Il y a longtemps que je la connais, si je peux dire. Elle passe même en coulisses du Canapé Rouge dans un roman ancien. Mais j'attendais le moment de faire quelque chose, non pas une biographie qui donne justement une distance, mais quelque chose de plus intime. Et je dois dire que c'est curieusement, c'est les débordements de la Seine et la disparition d'une femme sur un trottoir de mon quartier qui ont été les deux éléments
déclencheurs. Je ne les ai pas parfaites, je les ai juste une insoumise, une combattante,
voilà,
ça on peut le dire.
Ce qui me plaît, c'est cette fille. Oui. Elle est née dans cette Bretagne en 1717, 2 ans après la mort de Louis XIV. Le règne de Louis XIV a mis la Bretagne à feu à sang. C'est une catastrophe. La population est dans une misère noire, harcelée par les impôts, les épidémies, enfin bref, et la famine. Et elle naît dans une famille qui ressemble à ça. Elle est très fine. Elle ne saura ni lire ni écrire de toute sa vie parce qu'il n'y a pas d'école pour les filles à ce moment-là, dans cette région en tout cas. Et elle a même pas 20 ans, elle va élever une bande d'hommes où il y aura son amoureux, son frère et plusieurs hommes. En fait, ce qui m'a plu sur cette fille, c'est son côté rebelle, c'est la liberté qu'elle a dans sa vie à cette époque, où les femmes qui, dès qu'elles commencent à prendre une initiative, sont des sorcières. Et elle va, effectivement, aller prendre de l'argent chez les riches, les marchands, les gens d'église, les seigneurs. Elle a aussi une règle quand même, on ne tue personne.
Oui, c'est en cela qu'elle a ce...
Oui, c'est ce assez côté... mignon, on frotte à l'ortie, les récalcitrants, enfin, on propose des marchés.
Elle frotte à l'ortie,
j'ai trouvé ça tellement mignon, ça va un peu
de
récréation, mais bon.
Là, c'est vous qui êtes un peu idyllique, mignon.
Oui.
vous lui dites, dors tranquille, cher brigand, tu m'as sauvé pendant quelques jours de notre démocratie malade. Blandine Rinkel parlait de l'esprit du temps. Je renchérissais dans l'état du monde. Oui. Est-ce que il est bon aussi, est-ce que ce livre participe de ça, d'aller chercher aussi des combattantes dans les siècles écoulés pour trouver des forces pour affronter notre époque? Vous parliez des droits des femmes et vous le soulignez d'ailleurs, ils sont menacés aussi.
Je pense que l'histoire ça sert à ça. Hein. Et puis souvent, ce sont les personnages comme elles, comme le livre que j'avais écrit sur l'ancien FTP Moy, émigré polonais, la Victor Dojlida, sont toujours ces gens-là, complètement ordinaires, inconnus, qui en fait sont des révélateurs d'une époque. Pour moi, Marion Dufaouette, avec tous ses défauts et toutes ses grandes qualités, elle est révélatrice de cette Bretagne d'après Louis XIV. Et oui, bien sûr, moi j'aime bien les passerelles dans l'histoire. Il faut aller voir dans l'histoire les réponses aux questions.
On va en parler. Merci à toutes les trois de participer à cette émission donc consacrée au portrait de femmes. Je citais Baudelaire à une passante à l'orée de cette émission. Est-ce que pour vous, en tant que femme, ou alors ma question est totalement stupide peut-être, parler de femmes comme vous le faites peut être considéré, en plus il y a le recul de 30 ans pour vous, Marie Redonnet, comme le moyen de vous réapproprier un thème ou un motif trop longtemps laissé aux hommes et à leur projection fantasmatique sur les femmes, Blandine Rinkel?
Parler de femme, je crois, c'est en tant que femme, c'est oublier qu'on parle spécifiquement d'une femme et du coup ne pas isoler cette femme en tant que femme et ne pas fantasmer dessus comme un objet de désir et ne pas la réduire à son physique, par exemple. Oui. Moi, y a, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les valeurs qu'on dit féminines comme la valeur de l'attention. Et je pense que l'attention à l'attention est d'autant plus présente quand c'est une femme qui parle d'une femme. Voilà.
Marie Redonnet.
Moi, ça n'a pas été la volonté de faire parler, parce que moi, je donne voix aux femmes, je raconte pas l'histoire. Je prends des femmes qui me traversent et auxquelles je donne voix. J'en ai ressenti la nécessité, j'en ai pas eu le projet conscient. C'est-à-dire, quand je me suis mis à écrire, ça a été finalement, on m'a dit, il faut écrire des romans, alors très vite, parce que j'avais écrit des contes, j'avais écrit des haïkus.
La poésie, vous avez commencé par
parler haïkus, et mon éditeur m'avait fait comprendre que si je continuais comme ça, il me publierait plus, donc j'ai eu un sursaut, et j'ai été puisée en moi, ce premier roman qui était Splendide Hôtel, et c'est une voix de femme. Ça m'a surpris, je veux dire, je m'étais pas dit, je vais écrire sur les femmes, et je me suis aperçue en réfléchissant que c'est, dans mon histoire à moi, une histoire perdue, c'est des voix de femmes qui m'habitaient de très très loin, je les connaissais pas, elles me traversaient, et c'était un peu comme des personnages de l'histoire, vous, c'est un personnage connu, mais moi, c'était toutes ces femmes anonymes qui ont probablement traversé ma généalogie, qui elle-même est perdue. Mais mes grands-parents n'ont pas d'histoire, ils savent rien de leur histoire. Et j'ai eu l'impression, dans ce triptyque, que ces voix de femmes, qui sont un peu des voix mythiques, des voix
archaïques aussi,
ouais. C'était toutes ces voix de femmes qui n'avaient jamais eu la parole et auxquelles moi, en tant qu'écrivain, au XXe siècle à l'époque, je donnais voix, je donnais histoire, je donnais mémoire. Et donc, ça n'a pas été un choix féministe, à la limite, ça a été une nécessité d'écrivain. Voulant devenir une écrivain, et j'avais pris le nom de ma mère pour écrire, ça c'était fort. Donc à mon insu, j'étais porteuse d'une histoire de femme. Il n'y a jamais d'homme.
Michel Lèvre.
Mais moi, de toute façon, je pense que j'ai été nourrie, littérairement parlant, par des femmes déjà beaucoup. Hein. Je pense à Beauvoir, je pense à Duras et à d'autres, à des auteurs contemporains, Annie Arnaud, qui est de la même génération à peu près, toutes les deux. Et dans tous mes romans, ce sont des femmes qui parlent. Et je pense que c'est une façon aussi de les faire exister un petit peu plus sur la scène publique. Hein, quand on voit bien, ne serait-ce qu'aujourd'hui, tiens, dans la campagne électorale, il n'y a pas une femme vraiment candidate. Hein,
c'est très masculin. Oui.
C'est très masculin. Et je pense que c'est tout le temps à refaire, mais c'est normal. Rien n'est jamais acquis. Il faut tout le temps refaire. Alors, c'est pas une façon militante. Moi, il y a longtemps que j'ai laissé le militantisme vraiment actif derrière moi, mais en même temps, c'est une espèce de volonté. Oui, je pense, c'est pour ça qu'elle me plaît, Marion Dufaouette. C'est comme ça, à cette époque, sortant de la situation où elle était, j'ai aimé son trajet, son parcours.
On va continuer en parler avec vous. On va commencer avec donc ses héritières, Marie Redonnet, donc republiée 30 ans après leur première publication aux éditions du Tripode. Mais d'abord, on écoute votre choix musical. Vous avez choisi Billie Holiday, April in Paris.
April in Paris, chestnuts in blossom, holiday tables under the trees. April in Paris, this is a feeling no one can ever reprise. never met it face to face. I never knew my heart could sing, never missed a warm embrace till April in Paris. Whom can I run to? What have you done to my heart?
April in Paris de Billie Holiday, c'est le choix de Marie Redonnet. Elle publie Héritière au Tripode. Marie Redonnet, pourquoi avoir choisi Billie Holiday?
Ah, je l'ai choisi spontanément. C'est, oui, c'est une chanteuse qui me touche infiniment, qui fait écho à beaucoup de choses que je suis.
La musique joue un rôle dans votre écriture qu'on a souvent dite blanche, hein, même ouais, ultra blanche.
Ouais, ça,
faut se méfier.
C'est des mots de critique nourris de Barthes, etc. Mais c'est vrai que j'ai une écriture très très spécifique, mais l'écriture spécifique que j'ai, alors qu'on a baptisé de blanche quelqu'un que j'aime beaucoup, hein, Raymond Bellour par exemple, qui a écrit dessus beaucoup, moi je trouve pas qu'elle est blanche, simplement, moi je donne voix. Enfin, en particulier dans ces triptyques, hein, des héritières, à des femmes qui sont des femmes venues nulle part. Elles n'ont pas de nom. Souvent, la deuxième ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire. La troisième, elle a été un enfant trouvé dans une grotte. Elle est dans des mondes
avec
complètement...
Avec un livre de légende à la
voilà.
main.
Voilà. Donc, c'est des... Et je leur donne voix. Et c'est au sens fort, c'est-à-dire...
Ce ne sont pas des corps, c'est ça? Quand vous dites « je leur donne voix
». C'est des voix, mais c'est des voix qui ont des corps. Mais... Et ce sont des femmes, je veux dire, qui sont quand même amputées de plein de choses. Et donc, elles parlent aussi avec cette voix étrange, cette voix balbutiante. Moi, je dirais, c'est une voix qui fait de balbutiement. Je ne sais pas, Deleuze, il dit des voix qui trébuchent, des voix comme ça. Et c'est vraiment ça qui fait cette écriture très décalée par rapport à la grande écriture de la littérature française. Mais c'est parce que j'ai été dans ces voix-là. Et ces voix ne peuvent pas écrire comme un écrivain qui écrirait des belles phrases rhétoriques et des belles phrases de la littérature contemporaine ou classique. Vous voyez, c'est pas une écriture blanche.
Ben, vous voyez, surtout je voudrais que les auditeurs entendent de quoi l'on parle, puisque avant de parler de Splendid Hôtel, de Forever Valley et de Rose Mélie Rose, je voudrais qu'on vous écoute, Marie Redonnet, lire le début, c'est la première page de Splendid Hôtel, qu'on fasse connaissance avec cette voix.
C'est la première voix, c'est celle qui a émergé la première. Hein. Le splendide n'est plus ce qu'il était depuis la mort de grand-mère. Il faut sans arrêt déboucher les sanitaires. Les papiers se décollent des murs à cause de l'humidité. Le splendide hôtel est construit sur une nappe d'eau souterraine. C'est la faute à grand-mère. Personne n'avait jamais construit un hôtel en bordure du marais. Avoir un hôtel à elle, c'était son rêve depuis toujours. Elle avait voulu bien faire les choses. Elle avait fait installer des sanitaires dans toutes les chambres. C'était unique à cette époque dans la région. Elle était fière du splendide hôtel. Il y a une photo d'elle prise le jour de l'ouverture. Elle se tient bien droite, appuyée sur sa canne. Sa canne, c'était pour impressionner, parce qu'elle a toujours bien marché, jusqu'à la fin. La photo fait encore un bel effet dans le hall, mais le splendide a perdu sa réputation. Mes sœurs sont coquettes malgré leur vie retirée. Ada se teint les cheveux et Adèle les a encore très noirs. De nous trois, c'est moi la plus jeune, mais c'est moi qui parais la plus vieille. Ada passe des heures à se maquiller, ça lui donne bonne mine. On ne dirait pas qu'elle est si malade. Elle a toujours été malade. Elle s'évanouit souvent. Adèle ne supporte pas la vue d'Ada évanouie. C'est moi qui l'aide à reprendre connaissance. Après, elle fait comme si elle ne me reconnaissait pas. Je n'ai pas de volonté. Elle en profite.
Alors, Marie Redonnet, vous republiez vos trois romans, des années 86 et 87, qui étaient donc parus, on l'a dit, aux éditions de Minuit. Ce sont des histoires de femmes, Splendid Hôtel, Forever Valley, Rose Mélie Rose, en tout cas les femmes sont les héroïnes, qui résistent, mais alors vous dites elles accomplissent, on en parlera, moi je trouve qu'elles échouent
dans leur
combat, elles sont confrontées à de terribles forces extérieures mais aussi intérieures, la famille autant que les marécages par exemple dans Splendid Hôtel. Donc Splendid Hôtel, j'en ai parlé à l'orée de cette émission, sorte de cendrillon éternel, archaïque que vous nous donnez. C'est écrit avec des phrases à la fois simples, sèches, mais qui, par l'effet de répétition, donne l'impression vraiment d'être enfermé dans un texte qui devient très très beau, hein, malgré cette sécheresse apparente. Même sensation dans Forever Valley, où là il s'agit d'une jeune fille qui vit seule dans un presbytère avec celui qu'on appelle le père, dont on ne sait rien de plus, qui va devenir plus ou moins paralytique. Elle a une occupation, c'est creuser le jardin pour y trouver des morts. Et cette jeune fille, un jour, rencontre la patronne du dancing voisin qui va en faire sa protégée, je mets des guillemets, lui apprendre à danser, à se conduire avec les clients, notamment des douaniers qui viennent danser et faire autre chose. Il s'agit d'un bordel, hein, disons-le.
Oui.
D'ailleurs, le motif du bordel revient très souvent. Il est aussi présent dans Rose, Mélie Rose, dont je voudrais dire un mot aussi, hein, on ne va pas s'attarder, les auditeurs vous connaissent ou découvriront, mais qui commence le jour des 12 ans de l'héroïne, alors motif aussi archaïque, mythologique, par le sang de ses premières règles et qui se terminera par le sang de son accouchement qui signe aussi sa mort. On est à chaque fois, on a l'impression, dans un monde imaginaire, cruel, que ça soit finalement la montagne ou l'île, hein, ou le marais, on est dans ce même environnement absolument difficile, notamment pour ces femmes héroïnes confrontées à cette violence-là et la violence des hommes.
C'est vrai que dans chaque roman, je pense que le site et l'imaginaire du site, parce que ce ne sont pas des sites que je connais, ce n'est pas des sites qui m'ont inspiré, des sites réels. Ils portent l'histoire de ces femmes. Elles sont portées par l'imaginaire très fort de ces lieux, qui est un imaginaire violent. Le marais destructeur, ce hameau en ruine dans une montagne hostile. Et dans Rosemary Rose, cette île qui se perd, quoi, qui est économiquement, qui se désertifie. Et elles sont dans ce monde-là. Et ça, c'est très fort parce que dans ce monde qui se ruine ou qui se perd ou qui est hostile, il faut qu'elles aient un projet de vie, moi je dis qui est presque surhumain. Mais comme vous dites, elles vont tenter de toute leur force d'être humaines et de résister à ce monde-là et de se trouver une place de vivante. Mais le poids du négatif, le poids de leur héritage et le poids de l'héritage aussi social, qui est un héritage d'une société en ruine ou en décomposition, fera que malgré la force de vie qui les habite, elles échoueront. Mais c'est pour ça que j'ai quand même dit elles se sont accomplies. Moi, je pense que souvent, c'est la deuxième, par exemple, c'est une vraie tragédie. Hein.
La deuxième, ça se termine quand même. Je ne serai même jamais une femme. Enfin, je sais plus comment elle le dit.
La deuxième, c'est une tragédie.
Elle sera toujours jeune fille, quoi.
Voilà. Mais elles se sont quand même accomplies au sens où elles ont tenté l'impossible pour être vivante. Mais les forces négatives étaient beaucoup trop fortes. Moi, je pense à toutes ces femmes, par exemple, actuellement, parce qu'actuellement, 30 ans plus tard, j'écris des livres plus, disons, moins immémoriaux, moins imaginaires, dans un décor social plus fort.
Mais je vois combien de... La femme au Code 45, par exemple, voilà, que vous avez fait paraître au Tripode, qui est votre dernier livre.
Et mais... là, la réalité sociale est présente, on peut la reconnaître. C'est vraiment la société des femmes migrantes, tout ce qu'elles rencontrent comme violence. C'est terrible,
vous parlez les unes et les autres. Hein. Voilà. D'ailleurs, Michel Lèbre et Blandine Rincal.
Elles mènent le même combat.
En même temps, on retrouve dans La femme au col 45 et dans ses héritières un rapport aux hommes de ces héroïnes marqué vraiment par la violence. On a parlé là du bordel, de la prostitution. En gros, ces femmes aussi sont confrontées, certes, à la violence des éléments, mais avant tout, ou après tout, peut-être, à la violence des hommes.
Je pense que pour une femme qui veut, enfin comment dire, ou tout du moins, est-ce que c'est ma propre histoire inconsciente, je ne sais pas, mais beaucoup de femmes qui tentent des choses extrêmement difficiles et dures, elles rencontrent des hommes qui vont les soutenir, mais elles rencontrent aussi, surtout quand elles sont seules, beaucoup d'hommes qui sont des prédateurs terribles et qui vont les agresser. Et en plus, comme la femme, de par son histoire, de par son inconscient, de par son imaginaire, elle est en situation de faiblesse, parce qu'elle a intériorisé toutes ces lois masculines, où elle est à la fois soumise, dépendante, dans ces schémas, elle est prostituée à l'homme, souvent. Hein. C'est pour ça que les bordels reviennent souvent. Combien de femmes, à l'heure actuelle, finissent dans les bordels, alors qu'elles avaient prévu s'échapper pour une vie libre? Et c'est toutes ces choses qui habitent l'inconscient des femmes victimes. Parce qu'en fait, je suis du côté des victimes, je ne suis pas du côté des femmes qui gagnent spontanément. Et de toutes ces femmes victimes, le combat est double. Il est à mener dans la société, face à la violence, et souvent une violence masculine. Hein. Et il est peut-être encore plus profond à l'intérieur d'elle-même.
Je pense à Forever Valley, justement, la fin à l'issue. Là, on peut parler de tragique, hein, cette jeune fille, qui est donc prostituée toute jeune. Les douaniers payent plus parce que justement elle n'est pas formée, donc il n'y a aucune précaution à prendre. Précaution avec des guillemets, encore une fois, évidemment, j'utilise leur langage. Je n'ai plus 16 ans, dit-elle à la fin, mais je ne suis toujours pas formée. Massy, la patronne, hein, la tenancière du bordel, Massy dit que maintenant c'est trop tard, je ne le serai jamais. C'est quand même extrêmement... Là, on peut parler de tragédie, on parlait d'archaïque tout à l'heure. Il y a ce destin qui frappe les femmes.
Il y a une tragédie historique des femmes, hein. Il y a une tragédie des Noirs,
Michel Lèvre. On le voit aujourd'hui, je pense à la politique de M. Trump, et je pense à la dernière initiative de M. Poutine, qui vient de supprimer les poursuites judiciaires pour les hommes qui battent leurs femmes. Ça ne fera plus partie des...
Il nous faut une Marion du Fawet, d'urgence.
Je ne sais pas s'il faut une Marion du Fawet, mais je veux dire, c'est pour ça que je me dis qu'il faut toujours continuer de...
Bien sûr, c'est jamais fini. Par exemple, en Palestine, c'était à Bethléem, j'ai trouvé ça intéressant. Il y a un mouvement de femmes, quoi. Ils ont mis des affiches. C'est la première fois qu'une femme musulmane palestinienne, quand on voit le poids des hommes dans cette société encore. Et il y a ces femmes mutilées avec les yeux au bord noir, etc., qui osent se faire des affiches et dire plus jamais ça, on va se battre, etc. C'est formidable.
Ouais, moi, ce que je trouve assez beau, c'est la solidarité typiquement féminine qu'on sent dans les livres, qui n'a rien à voir avec la solidarité masculine, où souvent il y a une espèce de... Je suis grossière en disant ça, mais souvent il y a une espèce de projection et une solidarité un peu orgueilleuse. Alors que dans la solidarité féminine, et celle que j'ai ressentie dans votre livre, elle est beaucoup plus attentive, beaucoup plus douce.
Elle est compassionnelle. Ouais,
sans qu'il y ait d'orgueil, sans qu'il y ait de projection, sans qu'il y ait d'ego en fait, qui s'en mêle.
Oui. Et ce qu'on va retrouver à la fois chez Marion Dufaouet et chez le personnage de la mère, votre personnage, Blandine Rinkel. Juste un petit mot quand même, Marie Redonnée, sur ce long silence. Alors, non pas littéraire, mais éditorial. Hein. Pendant les années 2000, vous avez décidé que vous n'aviez plus rien à écrire. Vous parliez de voix tout à l'heure et vous aviez déclaré que il a fallu retrouver justement votre voix. Vous l'avez retrouvée avec La femme au col de 45, publiée au Tripode. Vous disiez à l'époque, quand la voix n'arrive plus à se faire entendre, on ne peut plus écrire. Qu'est-ce que c'est que cette voix, justement, et ces voix d'héroïne, hein, ces voix de femme, que vous n'arriviez plus à faire entendre? Et comment se faisait-elle entendre à l'époque de ce qui deviendra ce triptyque?
Oui, peut-être qu'il faut prendre se faire entendre dans tous les sens. Bon, il y a une phase très créatrice, donc là, les voix, elles arrivent, et puis elles sont tellement fortes qu'elles conquièrent même le social, c'est-à-dire elles arrivent à se faire entendre dans la société. Et je pense qu'il y a un certain type de voix que la société n'a pas tellement envie d'entendre. Donc il faut que vraiment les voix soient très fortes et qu'elles viennent très très souvent. Et là, j'avais publié énormément de livres, j'avais les éditions de Minuit pour me soutenir, etc., pour que par exemple le milieu littéraire ou un certain type de milieu social puisse quand même les apprivoiser. Mmh. Et puis bon, après,
Avec cette économie de mots, au fait que vous avez parfois, on a parlé, je sais que vous avez beaucoup lu Genet, justement, pendant cette période.
Qui lui est le contraire.
Et vous êtes plutôt en mode mineur, cette voix est en mode mineur.
En mode mineur, au sens joué de Deleuze, oui. Donc, pour se faire entendre. Et donc, à un moment donné, quand mes voix étaient beaucoup plus hésitantes, parce que bon, là, c'était une phase de conquête, hein, de certaine manière. Puis après, j'ai traversé, bon, des épreuves personnelles, ou d'autres choses dans la vie qui m'orientaient vers d'autres choses. Mes voix ont peut-être été un peu plus, ou hésitantes, ou moins reconnaissables. Et à ce moment-là, je veux dire, elles se sont fait moins entendre. Mais je parle de la société. Parce qu'en moi, les voix existaient toujours, et en fait, j'ai toujours écrit. À un moment donné, j'ai quand même eu des petits conflits avec les éditeurs, des conflits avec le milieu littéraire. Et donc, j'ai eu l'impression que je ne me faisais plus entendre. Donc, je me suis exilée pendant 10 ans à l'étranger. Donc, la voix, elle a moins travaillé, je l'ai moins fait entendre aussi. Personnellement, je me suis moins battue. Parce qu'en fait, ce que je comprends, c'est qu'en tant qu'écrivain, je suis un peu comme mes héroïnes. Si je ne me bats pas, on ne m'entendra pas, de certaines manières. Parce que la société n'a pas envie d'entendre certaines choses. Donc, en fait, pendant ces 10 ans, j'ai quand même continué d'écrire. Mais de manière plus intermittente, quand même.
Si je ne me bats pas, la société ne m'entendra pas. Ah, oui. C'est un écrivain qui parle. Vous êtes d'accord avec ça, Blandine Rinkel?
Oui, c'est difficile d'être en désaccord avec ça. Mais après, moi, ce qui m'intéresse spécifiquement, c'est aussi qu'on entende des voix de femmes qui ne sont pas des combattantes. J'ai l'impression que justement, c'est se battre ou mourir, et non, je crois qu'il y a d'autres possibilités, il y a d'autres valeurs à remettre au centre. Quoi.
Ma dernière héroïne ne meurt pas. Hein, voilà. Et justement, quand j'ai écrit ces livres...
Et elle a un colt.
Quand j'ai écrit ces livres, malgré moi, le dernier de la série, ça s'appelle Nevermore. Et dans ma tête, c'était vraiment plus jamais ça. Je ne veux plus, en tant que personne, en tant qu'humaine, je ne veux plus écrire des histoires où les femmes se battent et meurent. Je ne veux plus.
Et je ne veux pas non plus être identifiée. Et à la fin, en fait. Moi, ça m'intéresse qu'elles ne se battent pas et que ce n'est pas pour ça que ça relève de la force.
Alors là, on plonge tout à fait dans cet abandon des prétentions. Abandon des prétentions. De prétentions peut-être à se battre. Mais est-ce que ce n'est pas une combattante aussi, ce personnage de mère?
C'est ce que j'allais dire.
Michel Lèvre.
Je trouve que Janine...
Pourquoi on veut absolument que ce soit une combattante?
Été très très sympathique. C'est une femme qui c'est tout en douceur. C'est juste dans la relation avec les gens. Elle a décidé qu'elle avait des relations possibles avec tout le monde, y compris avec des gens précisément tenus un peu au banc de la société. Elle prend aucune précaution. Je trouve qu'elle a une espèce de disponibilité magnifique qui, à l'époque où on est, justement, de la méfiance, du doute, de la haine aussi, c'est une sorte de combat, mais comment dire, extrêmement silencieux, intime et timide, mais un grand combat pour moi.
Comme ça, ça vous va.
C'est une déviante.
Mais, bien sûr que ça me va, mais je m'étonne qu'on s'accroche à ce point au mot combat. Parce que là, par exemple, dans le cas de mon livre et dans le cas de ma mère, il n'y a pas de combat. Évidemment, on peut faire métaphoriquement un combat, mais quand même, elle n'est pas en combat. Et au contraire, quand ça se passe mal, ça s'arrête, en fait. Elle ne combat pas, elle ne lutte pas pour essayer.
Oui, mais parce qu'elle a justement cette espèce de spontanéité dans les rapports que je trouve absolument magnifique, quoi. Quand ça va plus, ça va plus. Mais on donne tout le temps la chance à ce que les choses aillent bien. Voilà, on ouvre la porte.
Alors, Jeannine, vous avez Michel Lèbre parler, donner son nom, donc Jeannine, c'est donc un personnage de mère, c'est le personnage qui est au centre de cet abandon des prétentions, donc non pas premier roman, mais premier roman publié pour vous, Blandine Rinkel. C'est une juxtaposition de plusieurs chapitres, 65 exactement, comme autant de petits fragments, dans lesquels une narratrice, qui est la fille, décrit sa mère en l'observant, des gestes qui peuvent être, par exemple, les post-it qu'elle colle sur les portes des placards de sa cuisine, ou sur son carnet aussi, elle a un carnet d'ailleurs qu'elle vous transmet pour que vous puissiez peut-être la percer à jour, car il s'agit d'une énigme, hein. En tout cas si vous n'utilisez pas le mot combat, le mot énigme est prononcé. Alors sur ces post-it, il y a par exemple « qu'est-ce qu'une vie réussie ?» qui est une question très importante dans l'Antiquité. C'est un portrait qui résonne, vous en avez parlé tout à l'heure, avec l'état du monde, l'esprit du temps, dites-vous, car ce personnage donc est une retraitée de l'éducation nationale, vit en Loire-Atlantique, à Rezé, qui est la ville où Le Corbusier avait bâti sa cité radieuse. Et dans sa cuisine, elle accueille le monde entier. Jeannine, se réjouissant aussi. Alors, il y a sa cuisine, il y a aussi Facebook, où elle reçoit des messages, par exemple, une amie qui lui envoie quelque chose pour son anniversaire, ou un jeune homme qui l'avait passionnée, puis qui est parti rejoindre Daesh. Mais finalement, elle prend les choses assez simplement. Elle est une sorte, même quand il la traite de sale race d'européenne, exactement. Elle apprend toutes les langues, Jeannine, et si, écrivez-vous, on lui donnait 100 ans de plus à vivre, tous les dialogues du globe y passeraient. De toutes les activités du monde, écrivez-vous, Blandine Rinkel, c'est ce qui la passionne. On découvre l'histoire de cette femme, aussi ses failles, avec une grande tendresse, une grande acuité aussi, une grande distance aussi par rapport à cette femme. Qu'est-ce qui a présidé à cet hommage à la mère, Blandine Rinkel, comme s'il fallait lui donner un livre pour ne pas qu'elle s'efface ?
Sûrement qu'il y a de ça, parce que justement, je crois que ce n'est pas une combattante et que justement, elle ne fera pas entendre elle-même sa vie, parce qu'elle pense que sa vie ne mérite pas d'être racontée, d'être dite, et elle en parle très peu, contrairement à mon père, par exemple, qui a une vie beaucoup plus héroïque, enfin une vie d'aventurier. Et qui, au repas de famille, en fait, prend énormément de place quand on parle. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de la regarder de près et de la faire entendre ou de faire entendre mon regard sur elle, en tous les cas, parce que je crois que d'elle-même, elle ne racontera pas les regards qu'on porte sur elle ou le regard qu'elle-même porte sur elle.
On va vous entendre, en tout cas, on va entendre votre voix, Blandine Rinkel. C'est un des portraits de Jeannine.
Vous n'entendrez jamais Jeannine dire qu'elle est désespérée, pas même triste ou chagrinée. Qu'il existe en elle du mauvais, des peines et des douleurs, elle l'admettrait volontiers s'il possédait un territoire distinct de celui réservé à la bonté, à la joie et au plaisir. Mais cet espace dédié au drame, qui chez tant d'individus s'étend sur des vallées de larmes, cette grotte vouée aux échos plaintifs, en son propre cœur n'existe pas. Quand elle est triste, quelque chose rit en elle. Quand elle est gaie, quelque chose en souterrain s'effondre. Vous ne pourrez jamais la réduire à aucune des émotions qu'elle accepte de vous montrer. Éternellement, son visage est tissé. Jeannine échappe. Observatrice et muette face au déferlement des émotions brutes, notamment, elle l'a toujours été. Son empathie est sans commune mesure quand elle voit un enfant ravaler sa salive, le menton d'une vieille femme trembler. Mais, et c'est peut-être le propre de l'empathie, l'émotion qu'elle ressent alors ne se présente jamais tout à fait comme la sienne propre. Il faut en fait qu'elle en passe par les sensations des autres pour autoriser les siennes à affleurer. Pareil aux spectateurs de théâtre déçus, qui réclament silencieusement de leurs voisins qu'ils commencent les premiers à critiquer le spectacle, avant de s'abandonner eux-mêmes aux critiques.
Merci Blandine Rinkel, c'est un extrait de L'abandon des prétentions, donc, qui est publié chez Fayard. On a perçu, on a entendu le mot « sensation » qui est répété dans cette page. À la première page, vous parlez d'un secret. Vous êtes fasciné par ce personnage que vous admirez ou pour lequel vous avez une certaine tendresse, mais qui vous échappe. Vous écrivez non plus une mère, mais un secret de famille, de ceux qu'on brûle d'écrire pour mieux comprendre qu'on ne les saura jamais tout à fait. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que l'énigme par ce texte est enfin résolue ou est-ce que l'écriture ne permet au fond que de comprendre et d'affiner une perception ?
Absolument pas résolu, cette énigme. pire que jamais, mais mon but n'était absolument pas de la résoudre en écrivant ce livre. C'était de la questionner et de en effet d'affiner les questions et peut-être de regarder, oui, de plus près, mais pas du tout de résoudre des énigmes. Et je pense que, enfin, c'est ma première phrase qui est d'ailleurs un emprunt à Annie Lebrun, mais que les énigmes, on les aime et ce qu'on aime, c'est les énigmes. Et je n'ai pas du tout envie de cesser d'aimer ni ma mère, ni quiconque, et je n'ai pas envie de retirer à personne son énigme.
Dans ce rôle des sensations et de la perception, quelle fonction avait ce dispositif que vous avez choisi en 65 fragments ? Est-ce que c'était la meilleure méthode, finalement, littéraire pour cerner par les mots cette femme ?
C'était pas volontaire, ça n'a pas été planifié, en fait, cette écriture en 65 parties. Je me suis tout simplement intéressée au récit que me faisait ma mère au départ, et j'en ai eu, je sais pas, une trentaine. Et je me suis rendu compte que je pouvais pas, étant sa fille tout de même, je n'arrivais pas à me contenter d'avoir cette grande distance et de la décrire seulement comme une femme, parce que je la voyais en même temps vivre, avoir des gestes, avoir une personnalité qui n'apparaissait pas seulement dans ses actions et dans ses dialogues, mais qui apparaissait aussi beaucoup dans sa solitude, évidemment. Du coup, j'ai écrit d'autres petits paragraphes et il se trouve que j'approchais 60 et je me suis dit, tiens, tout de même, c'est bien, elle a 65 ans et 65, ça ferait un chiffre rond et ça serait lisible.
À qui est destiné ce livre ? Est-ce qu'il est destiné justement au champ des lecteurs qui vont justement faire connaissance avec cette Janine qui, assez politiquement aussi, peut-être sans s'en rendre compte, célèbre une certaine bigarrure du monde, l'attention à l'autre aussi, qui peut avoir un usage politique aussi, surtout dans le monde dont nous venons. Vous venez de parler de Trump, Michel Lèbre, par exemple. Est-ce qu'il est pour elle ou est-ce qu'il est pour vous, dans le sens où il vous permettrait aussi de vous construire, à la fois en tant qu'écrivain, on parlait de Beauvoir tout à l'heure, et en tant que femme ?
Je crois que c'est un mélange des deux. Il n'est pas pour elle. C'est, d'ailleurs, il ne lui est pas adressé. Je veux dire, la dédicace n'est pas à son nom. Évidemment, il est tout de même pour elle, parce que la regarder pendant autant de temps et écrire autant de pages, forcément, la touche et lui est d'une certaine manière adressé. Mais non, je pense qu'en effet, c'était un prisme par lequel parler de l'époque, de valeurs qui me tiennent à cœur. Et peut-être que c'est un peu plus égoïste que prévu, ce projet. Peut-être que c'est quelque chose qui me permet d'avoir un regard et d'affiner mon regard. J'ai l'impression qu'on veut en faire une chose extrêmement généreuse. Évidemment qu'il y a de la générosité, mais c'est toujours mêlé. Dans cette générosité, il y a un peu d'égoïsme d'écrivain en devenir, je pense.
On va écouter, Blandine Rinkel, votre choix musical. Vous avez choisi Childish Gambino, Me and Your Mama. Pourquoi ce choix ?
Alors, absolument pas pour le titre, parce que Me and Your Mama est, est beaucoup moins vertueux que dans la littérature et que dans ses portraits de femmes, mais parce que j'aime beaucoup Childish Gambino, qui est très prolifique et qui, d'album en album, est de plus en plus épatant et qui raconte des histoires intimes dans ses paroles et qui est très très près de ce qu'il vit et d'une manière, je sais pas, très sincère, qui m'intéresse.
Childish Gambino, Me and Your Mama, c'est le choix de Blandine Rinkel qui publie aux éditions Fayard L'Abandon des Prétentions. Vous écrivez dans L'Abandon des Prétentions, Blandine Rinkel, il nous faudrait écrire un livre sur chacun de nos proches pour apprendre au gré des pages combien, comment nous les aimons. C'est ça votre mantra d'écrivain finalement ? dire l'amour dans une société qui en manque tant?
Je ne sais pas si la société en manque tant. Je pense qu'il y a de l'amour partout et qu'il y en est, j'espère qu'il y en aura toujours, qu'il y en a toujours eu. Mais en revanche, on a un peu de mal à mettre en haut de l'affiche ou à la tête des médias ces sentiments-là, ces bons sentiments.
Oui, c'est ça. Ils ont à chaque fois ces bons sentiments.
Oui, il y a une espèce de guerre en cours contre les bons sentiments. Et je le répète souvent, mais je crois vraiment qu'on ne fait pas de littérature ni avec des bons ni avec des mauvais sentiments, mais avec des sentiments complexes.
Et des sensations.
Et qu'il faut s'autoriser à aimer de manière forte si on aime fortement, et ailleurs de manière forte si on haït fortement.
Ça vous plaît, ça, Michelet? Parce que vous, Blandine Rinkel, elle parle de chacun de nos proches, mais vous élargissez le cercle de vos proches à une jeune femme de la fin du XVIIIe siècle, cette Marion du Fawet, sorte de Robin des Bois qui existait. Hein. Cette définition, voilà, écrire un livre sur chacun de nos proches. Alors, elle vous est proche pour savoir combien et comment nous les aimons.
Oui, d'ailleurs, je l'ai fait dans mes précédents romans, hein, parce que j'écris de la fiction, mais Le Dernier Chemin, c'est quelque chose que j'ai écrit pour mon père, sur mon père. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord. De toute façon, je ne me vois pas écrire sur des personnages avec lesquels je n'ai pas une empathie particulière, singulière, ou une volonté d'approcher ce personnage. Voilà.
Empathiste aussi comme au sens étymologique, souffrir avec, quoi, pas juste une bienveillance aussi.
Oui,
les mêmes...
souffrir avec ou accompagner cette souffrance. Enfin, voilà. Hein, je crois que c'est la raison qui m'a fait choisir d'ailleurs le morceau de musique que j'ai choisi, Schubert.
Oui, la jeune fille et la mort.
On m'a posé la question, une musique, je me suis dit quelle musique, bon, Schubert, parce que j'écoute beaucoup Schubert, fait partie comme Ravel, comme Eric Satie, comme Mahler, des musiques que j'écoute beaucoup, beaucoup. Et puis parce que lui aussi, il meurt très jeune, il est mort à peine 30 ans ou 30 ans, enfin voilà. Et c'était un grand mélancolique. Bon, voilà, donc j'ai pensé à la jeune fille et la mort.
La jeune fille et la mort, c'est le destin aussi
Marion
du Fawet.
A été pendue à 38 ans.
À 38 ans.
Donc c'était presque encore une jeune fille.
Oui, 38 ans, on peut
dire. Une jeune femme, en tout cas.
Donc on écoute votre choix musical, Michel Lèbre, qui va très bien à cette chère brigante, Lettre à Marion du Fawet, que vous publiez chez Sabine Vespizer. Donc c'est le début de l'Allegro de La jeune fille et la mort de Schubert, interprété par le quatuor Orlando. Chère brigande, Lettre à Marion du Fawet, c'est publié chez Sabine Vespizer, c'est votre nouveau roman, Michel Lèbre. Vous dites qu'il n'y a pas de narrateur, d'ailleurs le narrateur c'est vous, c'est Michel
oui,
Lèbre
c'est moi.
Qui écrit à cette femme que vous avez retrouvée, sortie du XVIIIe siècle, sorte Robin des Bois, bretonne, qui dans les premières années de ce siècle qui deviendra celui des Lumières, prenait aux riches pour redistribuer aux pauvres, mourut sur le gibet à 38 ans et a déclenché donc l'écriture de cette longue lettre. Elle a écumé les bois, redressé les torts entre le Fawet, hein, c'est un endroit, les monts d'Arrée et Quimper, voilà, dans le Morbihan. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ça commence pas dans le XVIIIe siècle, ce livre, ça commence dans une soirée à Paris, que j'ai vue belle, en tout cas jeune femme à la chevelure flamboyante, fume une cigarette, se sent un peu perdue dans cette soirée. Elle disparaît. Vous avez l'impression de retrouver une autre femme, et cette fois-ci dans les habits d'une sans domicile fixe qui vit en bas de chez vous. Même chevelure flamboyante, mais évidemment moins de splendeur, en tout cas physique. Et vous convoquez la figure de cette Marion du Fawet. Comment les choses se sont enchaînées et qu'est-ce qui a vraiment déclenché cette lettre?
J'ai beaucoup de mal avec cette humanité qui est échouée sur les trottoirs de Paris depuis maintenant assez longtemps, qu'elle soit des sans-domicile fixe, que ce soit des Roumains, que ce soit des migrants. Je trouve que, d'abord, outre le fait que dans une ville comme Paris, c'est quasiment insupportable, parce que je trouve que ça dit beaucoup sur la façon qu'on a de vivre, sur le regard de la société, et c'est surtout cette façon qu'on a indifférente, moi comprise, hein, parce qu'on est totalement impuissant. Je crois que c'est l'impuissance que je ressens par rapport à ça qui me détruit complètement. On passe sur ces trottoirs, on les voit pas, on peut plus les voir, parce que de toute façon ils sont tellement nombreux.
Mais pourquoi Marion Dufaouët, vous auriez pu parce que pour parler de ça
ce qui me plaît pour... chez elle, c'est qu'elle refuse cette misère. Comme je le disais tout à l'heure, la Bretagne est dans un état pas possible, et elle a très bien compris le peu d'avenir qu'elle avait. Hein.
Mais elle était dans votre panthéon depuis très longtemps.
Ça fait 20 ans que je la connais.
Ouais. Si comment est-elle apparue alors dans votre imaginaire?
Tout à fait par hasard, dans une librairie bretonne à Quimper, je tombe sur un livre qui retrace son parcours, et je lis ça et je me dis, quel beau personnage de rebelle, de fille libre, avec en elle aucune ressource, elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire, elle est dans une espèce d'instinct comme ça, presque animal, de refus de la condition que la société va lui donner. Donc c'est ça qui m'a plu. Alors c'est vrai que sans doute, là j'ai eu envie de l'écrire parce que je me suis dit, c'est ça dont j'ai envie peut-être, qu'est-ce qui peut soulever tout d'un coup la colère? C'est pour ça que je dis que ce sont les débordements de la Seine qui, curieusement, pour moi, étaient cette espèce de colère silencieuse de la nature. À un moment, elle n'en peut plus, et moi non plus, j'en pouvais plus, quoi. Donc, je me suis dit, voilà, Marion, je vais lui écrire.
Je suis une femme qui s'adresse à une femme, c'est comme ça que vous vous formulez.
Oui.
Et je poserai la même question qu'à Blandine Rinkel. À qui s'adresse, du coup, ce texte? Qui s'adresse au premier chef, à Marion, mais qui ne pourra pas vous lire, ou peut-être, qui sait. Mais est-ce que c'est aussi... histoire de fournir quelques munitions littéraires à une époque dont vous dites qu'elle est illisible, écrivez-vous.
Ah ben oui, tout à fait. Ben, je pense que c'est aussi la fonction de la littérature, hein, outre l'écriture, évidemment, la forme qui est importante. Et il y a le fond, la littérature, ça sert aussi à ça. On le sait bien, nous, en tant que lecteurs, de lire des livres qui sont parus. Moi, quand je relis des livres de la génération d'entre les deux guerres, les Calais, les Boves, les Hivernaux, les Paul Gaden, non seulement je lis de la belle littérature, mais en même temps, je lis l'histoire qui est contenue dans cette littérature. Donc, après, à qui je m'adresse? Je m'adresse, je sais pas... au lecteur qui va le lire.
Je voudrais qu'on vous entende lire un passage de cette lettre à Marion Dufaouët, chère brigande.
Et sœur Jaffray ?
La tentative d'enrôlement dans le calme.
Oui, parce qu'à l'époque, il était de bon ton qu'une famille bourgeoise accueille une pauvresse pour lui donner quelques bonnes manières. Les sœurs Jaffray, vieilles filles célibataires d'une riche famille d'anciens armateurs de Port-Louis, se mettent en tête de te prendre chez elles, comme cela se fait souvent à l'époque, pour te donner quelques manières, faire de toi une chrétienne docile et une bonne ménagère. Comme ton père vient de mourir, elle propose au second mari de ta mère, un certain Le Billon, de s'occuper de leurs terres dans la région. Elle tente de t'enseigner un peu de français, de te faire écrire en vain. Le soir, tu sors en cachette pour aller, j'imagine, trinquer avec et t'amuser avec les marins du port qui, sous Louis XIV, avaient pris son essor commercial, attirant ainsi une colonie d'Irlandais. Sans doute préférais-tu leur joyeuse compagnie à celle maussade des deux vieilles filles. Plus tard, tu as toujours fréquenté les auberges. C'est dans celle du Lion d'Or, au Faouët, que tu croiseras le beau dragon qui t'apprendra à monter à cheval. Surprise un soir par les sœurs Jaffray au retour d'une de tes sorties nocturnes, tu prétends être allée courir dans les bois qui te manquent. C'est peut-être vrai. Elles renoncent à t'apprivoiser, te mettent dans la diligence du retour. Tu es encore adolescente, mais tu as déjà décidé d'être libre et vagabonde.
Libre et vagabonde, Marion Dufaouët. Alors, il y a Marion, il y a aussi d'autres figures de femmes que vous convoquez. Violette Nozière apparaît, les sœurs Papin aussi, les femmes résistantes incarcérées sous Vichy. On a l'impression finalement que cette lettre à Marion Dufaouët s'élargit pour devenir une sorte d'éloge transhistorique à la femme rebelle.
Je n'ai pas une spéciale tendresse pour Violette Nozière les sœurs Papin.
Hein. Mais elles sont là,
pas la même chose.
Elles sont là, Olympe de Gouges.
Non, mais c'est parce que je parle de la prison de Rennes où elle a fait un passage, parce qu'elle a visité plusieurs prisons. Évidemment, pendant 15 ans, tout s'est bien passé, y compris les gens ne portaient pas plainte, parce qu'elle proposait des arrangements avec les marchands. Hein, elle avait inventé un peu la mafia, là. Hein. Elle faisait garder les boutiques des marchands qui donnaient de l'argent. Ça se discute largement. Hein.
Mais cette convocation, alors, parlons de ces femmes, de ces résistantes, d'Olympe de Gouges. On a l'impression que finalement, Marion n'est qu'un un relais dans une sorte de chaîne un peu idéale ou imaginaire de ces combattantes.
Je
ne
les mets pas sur le même plan, ça n'a rien à voir. Olympe de Gouges est une intellectuelle qui, elle... Comme je l'ai dit dans le livre, à 7 ans, Olympe de Gouges, quand Marion Dufaouette est pendue. Sauf qu'elle, elle sait lire, écrire et qu'elle a eu une trajectoire aussi dramatique. C'est-à-dire qu'elle a, elle a pensé qu'elle avait le droit, en tant que citoyenne, qui d'ailleurs les femmes à l'époque, n'étaient, avant la Révolution, n'étaient pas considérées comme des citoyennes, avaient le droit d'avoir des opinions et de revendiquer le droit au divorce, l'abolition de la peine de mort, de l'esclavage et tout ça. Voilà.
Vous le dites, hein, vos parcours sont certes bien différents, mais au moins ont-ils un point commun, le choix de la liberté à une époque où les femmes étaient sous l'autorité masculine. Il y a un passage que j'aime beaucoup et qui me permettra aussi de vous interroger tous les trois. Vous avez cette phrase... Michel Lèbre, il faut veiller sur nos conquêtes, elles sont fragiles. Il y a aussi cette agressivité
masculine
au centre.
Mais bien sûr, il y a des conquêtes. Le droit de vote, je le dis aussi, j'ai 6 ans, moi, quand le droit de vote est arrivé pour les femmes. Je ne suis pas centenaire, mais je veux dire, c'est proche quand même, hein, c'est 45. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement fragile, et on le voit bien, là, sur les lois, sur l'avortement, sur la place des femmes dans les structures politiques, sur y compris la différence des salaires, toutes ces revendications. J'ai pas fait un tract, hein, c'est pas mon propos, mais c'est vrai qu'elles sont fragiles, c'est qu'il faut toujours recommencer.
Mais précisément, en tant qu'écrivain, quand vous consacrez un portrait à cette femme, hein, Marion Dufaouette, vous lui envoyez une lettre, vous la donnez à lire comme un... Peut-être pas un exemple, mais en tout cas quelque chose à étudier de près.
Non, pas un exemple. Non.
Quand vous, Marie Redonnet, vous nous donnez aussi ces portraits de femmes qui combattent à leur manière, même si elles échouent à la fin, et même si vous aviez décidé de ne plus, justement, nevermore, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, de ne plus écrire l'histoire de femmes qui perdent, ou vous, Blandine Rinkel, avec cet éloge de l'attention au monde d'une femme simple qui se tient... à sa place, est-ce que l'art du roman, est-ce que les textes peuvent un petit peu changer la donne, justement, de ces conquêtes fragiles,
questionner, de
faire réagir le lecteur, Blandine Rinkel?
Changer le regard, je sais pas si changer les faits, je crois que l'action politique c'est quand même autre chose que,
bien sûr,
que la littérature.
C'est pas la littérature.
Mais je pense que la littérature a ce pouvoir et je vois par exemple qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, de gens que je ne connais pas, qui m'écrivent en me disant on a envie de rencontrer Jeannine en question. Alors que dans la vie réelle, disons en delà ou en deçà de la littérature, personne ne manifeste un désir excessif de rencontrer ma mère. Et je me dis, le regard sur elle est échangé.
Et c'est ça le pouvoir de la littérature.
Ouais, c'est de rendre un peu plus extraordinaire, un peu plus intense, quelque chose qui paraît très ordinaire et très petit.
Marie Redonnet.
Je dirais ce qu'on disait tout à l'heure, faire entendre... Non, je ne crois pas que la littérature transforme la société.
Non, mais c'est triste ce que vous me disiez.
Non, mais non, attendez, moi je ne suis pas pessimiste sur ça. Je pense que la littérature a quand même une fonction forte de faire entendre,
Tout à fait, ouais.
De propager même de manière très clandestine des voix différentes, y compris des voix négatives. Hein. Je veux dire, il y a aussi malheureusement en littérature contemporaine des voix que je trouve extrêmement glauques et extrêmement dangereuses, qui se font entendre de manière très très forte, comme Michel Houellebecq et compagnie.
Ah bon. Vous le trouvez glauque et dangereux?
Je le trouve négatif, très négatif, dangereux, non, je ne ferai pas cet honneur. Mais négatif, c'est certain, et ces voix-là se font entendre aussi.
Vous ne le créditez pas d'une ironie, par exemple, qu'il pourrait avoir?
Non, moi, j'ai des amis qui disent, oui, c'est pas écrit, etc., mais c'est ringard, c'est une ironie, etc. Je pense que, malheureusement, c'est du marketing. Je fais mon topo.
Libre à vous.
Voilà, mais oui, qu'il a de l'ironie... parce qu'il n'est pas idiot. Donc si des voix comme ça négatives peuvent corrompre un tissu social, ou tout au moins alimenter la perversion d'un tissu social, je souhaite, enfin je désire vraiment profondément que des voix... moi j'ai beaucoup aimé le livre sur la mer, hein, qui n'est pas un livre de combat, mais c'est un
livre
de décalé.
On a fait s'écharper sur
Et c'est un livre d'amour, l'amour est quand même en décalage, hein, de toute façon, et c'est une forme de résistance, que de faire ce portrait de femme avec amour. Je trouve que tout cela est très très important dans une société qui a tant besoin de voix et de récits qui lui donnent une force.
Michel Lèbre.
Oui, moi je suis d'accord. Je pense que la littérature est là pour ouvrir des portes et laisser passer des voix qu'on n'entend pas et faire réfléchir. Voilà, c'est mais sans volonté de changer des choses. Bien sûr que non, ça ne change pas les choses, mais Ça montre.
Ça chemine en souterrain.
Ça partage. Un endroit de partage.
Clandestine. Voilà. Comme disait Marie Redonnet. Ça pourrait être le mot de cette émission. Voilà. Je rappelle, je vous remercie beaucoup, toutes les trois.
Merci à vous.
Je rappelle le titre de vos ouvrages. Michel Lèbre, Chère Brigande, Lettre à Marion du Fawet. C'est chez Sabine Vespizer. Héritière de Marie Redonnet. C'est au Tripode. Hein, donc, c'est vos trois romans, Splendide Hôtel, Forever Valley et Rose, Mélie Rose, qui étaient parus en 86, 87. Aux éditions de Minuit, La femme au col 45, hein, aussi à lire. Et puis, Blandine Rinkel, première publication, premier livre, L'abandon des prétentions chez Fayard. Merci à toutes les trois.
Merci beaucoup à vous.
C'est le temps de retrouver notre libraire de la semaine. Ce rendez-vous vous est proposé en partenariat avec livrehebdo.fr. Nous sommes cette semaine avec Caroline Berthelot de la librairie La Femme Renard, 115 Faubourg La Capelle. C'est à Montauban. Bonjour Caroline Berthelot.
Bonjour.
La Femme Renard, quel joli nom.
Oui, oui, on est très contente de ce choix de nom et c'est vrai que nos clients nous ont adoptés en tant que renarde dans la vie culturelle de notre vie.
Très bien, c'est une référence à quelque chose que je ne connaîtrais pas.
À la fois un texte qui s'appelle « La femme changée en renard » de David Garnett.
Ah bah oui, oui.
Voilà, publié chez Grasset en cahier rouge, donc on peut toujours trouver des textes.
Très bien.
Maintenant, s'entend dans une librairie aujourd'hui.
Alors, vous allez nous parler de Dans la forêt de Jean Eglan. C'est publié chez Gallmeister. C'est un roman américain et c'est traduit par Josette Chiche-Portiche.
Voilà, tout à fait. Et ce texte qui a été publié il y a 20 ans aux États-Unis est traduit pour la première fois en France. Et c'est vrai que c'est un gros choc littéraire. Donc voilà, l'histoire, c'est un thème qu'on peut avoir déjà vu puisqu'il s'agit d'une littérature post-apocalyptique. Il s'est passé quelque chose, on ne sait pas exactement quoi, et nous sommes avec deux sœurs, avec Nell et avec Eva, qui ont 17 et 18 ans, qui habitent dans la maison familiale, qui est en plein cœur de la forêt. Et quand le livre s'ouvre, on est le jour de Noël, on le sait dès les premières pages, la maman et le papa ne sont plus là, ils sont partis sur les années précédentes, et les filles n'ont plus d'électricité, plus de téléphone, ne peuvent plus aller à la ville, n'ont plus d'essence, et il n'y a plus les choses élémentaires, le savon, le shampoing, le lait, la viande, tout ça a disparu. Et ces filles, ce jour de Noël, se promettent, bien sûr, qu'à Noël prochain, tout sera reparti comme avant.
Et on ne sait pas la raison de cet apocalypse.
Non, alors elles ont eu des bruits, elles savent pas si c'est des guerres, elles savent qu'en tout cas, petit à petit, il y a eu une infection qui a contaminé les gens à la ville, ce qui fait que l'école a fermé, puis la bibliothèque, etc. Donc on suppose voilà qu'il y a eu un virus au moins, mais il y a peut-être eu des choses plus graves, plus loin, ailleurs, on ne sait pas exactement.
Alors vous le disiez, hein, c'est un thème qui revient souvent, hein, dans, on parle même de littérature post-apocalyptique. Qu'est-ce qui vous a plu vraiment dans ce livre-là par rapport à tous ces livres qui parlent d'une apocalypse?
Déjà, ce qui m'a plu, c'est que c'est un huis clos à ciel ouvert, puisque ces filles-là, contrairement à des choses qu'on a vues dans d'autres romans, effectivement, ne vont pas bouger de là où elles sont pour réinventer la survie. Elles vont réinventer la survie là où elles sont, au cœur de cette maison, au cœur de cette forêt. Donc là, ça change complètement. C'est-à-dire qu'elles ne cherchent pas à aller voir comment on peut faire, est-ce qu'il se passe autre chose ailleurs. Elles décident de réinventer tout à partir de là où elles sont.
Mmh.
Et il y a une grande force poétique dans ce livre, puisque ces deux filles, les deux choses qui les font vibrer encore toutes les deux, pour la grande, c'est la danse. Pour la plus jeune, c'est la lecture, c'est le savoir, puisqu'elle espère intégrer Harvard quand tout ira bien. Et donc, il y a aussi cette petite trouvaille qu'on n'a pas forcément d'habitude ou qu'on n'a pas de cette façon-là dans les romans de ce genre-là.
Vous nous avez donné très envie de découvrir donc ce roman « Dans la forêt » de Jean Eglan. C'est publié chez Gallmeister. C'est traduit de l'américain par Josette Chiche-Portiche. Et je crois savoir qu'il y a une prochaine adaptation au cinéma.
Avec
Ivan Rachel Wood, c'est ça?
Voilà, exactement.
Merci beaucoup Caroline Berthelot. Je rappelle que vous nous venez de cette librairie au très très joli nom et très inspirant, La Femme Renard. Donc j'invite les auditeurs à pousser la porte de votre librairie. C'est à Montauban, 115 Faubourg La Capelle. Merci beaucoup Caroline.
Merci. Merci à vous.
C'était Le Temps des Écrivains avec Avril Ventura, Anne-Laure Chanel, Jean-Richard Dufour à la technique et la complicité de Philomène Villard. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster pendant un an et réécouter pendant 1000 jours sur franceculture.fr. Cette heure qui a été consacrée à la parole des femmes en littérature et au portrait de femmes avec Marie Redonnet, Blandine Rinkel et Michel Lèbre.